C'est la semaine, c'est le jour, c'est l'heure. Tous en cœur, allez, vive la francophonie! Je vous ai pas bien entendu, on recommence. Phonie pour se parler, même langue, de loin en loin ou à l'oreille. Franco, franc, français, franchement.
Pascal Paradou.
Le 20 mars sera très certainement la journée de libération pour Olivier Dubois. Le 20 mars, c'est aussi la journée internationale de la francophonie. Alors pourquoi internationale? Parce qu'avec un peu plus de 320 millions de locuteurs, le français est parlé sur les 5 continents. Mais ce constat recoupe aussi des considérations historiques et politiques qui supposent un regard avisé. Bonjour Shan Fay Labeye.
Oui, bonjour, bonjour Monsieur Paradou.
Vous êtes historienne et directrice adjointe chargée des formations à l'Institut international pour la francophonie à l'Université Jean Moulin à Lyon. On dit francophonie, on ne dit jamais anglophonie ou hispanophobie. Pourquoi ?
Le mot francophonie a été inventé par un géographe français en fin du 19e siècle. Mais c'est Monsieur Onésime Reclus. Ce terme a été inventé pour désigner les populations parlant français dans le monde. Mais la francophonie dont on parle aujourd'hui, c'est une francophonie qui a été inventée dans les années 60 du siècle dernier, inventée par les pères fondateurs du sud francophone, des anciennes colonies françaises, en fait.
En tout cas, c'est un mot qui est historiquement lié à la colonisation.
Oui, c'est vrai que les premiers moments, en fait, avec l'invention du mot, Onésime Reclus a découvert ce fait linguistique et géographique dans les anciennes colonies françaises en Afrique. Et ailleurs dans le monde, certainement c'est un fait. Il y a un lien très fort avec la colonisation.
Mais pour autant, les pères fondateurs, ce que l'on appelle les pères fondateurs, ne sont pas liés à la colonisation. Ils n'étaient pas colons. Senghor, Bourguiba, Diori, Sihanouk, donc les présidents sénégalais, tunisiens, nigériens et le roi du Cambodge, étaient plutôt les colonisés que les colonisateurs.
Exactement. C'est ça que je pense qu'on n'a pas fait assez le travail de communication sur ce phénomène. J'ajoute aussi, il y a un autre père fondateur, c'est un Québécois, Jean-Marc Léger. Jean-Marc Léger, il était le premier secrétaire général de l'Agence de coopération culturelle et technique, créée en 1970. Bon, on en parlera tout à l'heure. Mais pour vous dire que oui, c'est ça, la francophonie a été inventé, ressuscité plutôt, au moment des décolonisations. L'acte de naissance de ce phénomène international, c'est la publication d'un numéro varia de la revue Esprit portant sur la langue française dans le monde, en fait, en 1962, c'est-à-dire 2 ans après l'accès à l'indépendance de la plupart des anciennes colonies françaises en Afrique.
Et puis il y a la date du 20 mars 1970, et c'est pour ça qu'on célèbre la francophonie cette date-là, qui est la convention Niamey à l'origine du regroupement des États francophones. Donc on est bien dans cette décennie 60-70.
Oui, c'est bien ça, mais vous savez que la création de l'ACCT, de l'Agence de coopération culturelle et technique, à Niamey, c'était plutôt une francophonie de solidarité, en fait. La francophonie qui a mis l'accent sur les coopérations, l'intitulé de l'agence est clair, hein. Coopération culturelle et technique. La francophonie politique et institutionnelle n'était pas vraiment née. Quoi qu'il y a quand même quelques, comment vous dire, créations institutionnelles comme la Confémène ou la Confégès. La Confémène, c'est la conférence des ministres de l'éducation des pays de langue française, pays francophones, et la Confégès, c'est la conférence des ministres de la jeunesse et du sport, qui ont été créés avant 1970, hein, exactement, je crois, c'est 1968, voilà.
Alors, Tran Phai Labeyi, on va continuer à parler de francophonie. On retrouvera peut-être Anne Cantner au cours de cette émission si la libération d'Olivier Dubois se confirme. Mais si on parle francophonie, sur le terrain, il y a toute une série d'institutions qui œuvrent pour l'apprentissage de la langue française et des cultures francophones. On en a souvent la preuve tous les lundis dans cette émission avec la chronique ailleurs. Eh bien, aujourd'hui, c'est lundi. Ailleurs à Kinshasa avec Laurence Paris. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes attachée de coopération pour le français à l'Institut français. Alors, c'est la langue officielle du pays, aux côtés de plusieurs langues nationales comme le Lingala ou le Swahili. Mais comment le français est-il perçu en RDC ?
Alors, déjà, on peut dire que c'est effectivement un pays francophone et qui tend à le rester, puisque la majeure partie des personnes parle une langue, voire plusieurs langues nationales et locales, à côté du français. Donc la francophonie, c'est vraiment important puisque c'est une langue de communication au niveau du pays entier et aussi qui permet l'accès à l'international. Donc c'est une langue qui est plutôt bien perçue. On attend ici les 9e Jeux de la francophonie début août 2023 et là aussi ça donne un élan vers la francophonie.
Alors, qui vient chez vous ? Parce qu'en effet, avec ses 110 millions d'habitants, la RDC est le pays francophone qui a le plus grand poids. Donc, qui vient à l'Institut français ?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un public très varié. On a le public du centre de langue, alors là, qui viennent se former en français. On a des étudiants congolais et des étudiants de toute nationalité, avec du français langue seconde, en renforcement linguistique, ou du français qui correspond plus à une méthodologie de français langue étrangère. Donc là, ça représente quand même beaucoup de monde. Ensuite, on a tous les artistes. Les artistes sont des grands clients, on va dire, de l'Institut français. Il y a des activités presque quotidiennes à l'Institut français de Kinshasa. Il y a beaucoup d'activités aussi dans nos trois autres instituts qui sont à Goma, Bukavu et Lubumbashi. Et vraiment, les artistes, pour eux, c'est un point central, on va dire, où ils vont trouver beaucoup d'appui et un espace pour s'exprimer.
Et pour cette semaine de la francophonie, vous avez mis les petits plats dans les grands ?
Alors, il y a un programme qui a été coordonné par la Délégation générale à la francophonie, qui est très riche cette année, où il y a beaucoup d'activités, avec notamment l'activité qu'organise l'AUF sur sa chasse au trésor. C'est quelque chose qu'elle fait presque tous les ans. Et puis nous, au niveau des instituts français, alors il y a beaucoup d'activités culturelles et linguistiques, avec les associations de professeurs de français aussi qui font beaucoup de conférences pendant ce mois de la francophonie. Et en même temps, on lance, nous, une fresque sur le thème du temps, puisque c'était un des thèmes qui avait été lancé par la semaine de la langue française. Et là, donc, il y aura une fresque vidéo, une fresque dessin et une fresque intergénérationnelle en musique. Et ensuite, ces trois fresques feront l'objet d'une diffusion avec un mot introductif du groupe des ambassadeurs francophones de RDC. On va aussi faire quelque chose avec les membres du groupe des ambassadeurs de RDC, c'est qu'on va en fait les filmer, on va leur demander une petite capsule pour les présenter et présenter leur vision du temps. Et voilà, donc ça, ce sont des activités qu'on n'avait jamais faites et qu'on va faire cette année. L'idée, c'était de mettre un petit peu en valeur le groupe des ambassadeurs francophones, ce qu'on appelle le GAF. À côté de ça, beaucoup, beaucoup de concerts. En fait, on va dire que ça a vraiment démarré le 17 et ça va jusqu'au 31.
Merci beaucoup, Laurence Paris, et bonne fête de la francophonie
merci
à Kinshasa.
Merci beaucoup, merci à vous, au revoir.
Huguette Tolinga qui fera la clôture de la semaine de la francophonie à Kinshasa. Shan Fine-Labbey, vous, historienne spécialiste de la francophonie, vous dirigez, faut-il le préciser, un master sur la francophonie à l'Université de Lyon qui est unique au monde. Est-ce qu'on doit penser une francophonie spécifique à l'Afrique et une autre au reste du monde? Est-ce qu'à Kinshasa ou à Montréal, c'est la même chose, la francophonie?
Alors, en fait, la francophonie, je peux dire la francophonie avec un grand F, la francophonie institutionnelle, à connotation géopolitique, c'est une francophonie intergouvernementale, symbolisée actuellement par un grand opérateur qui est l'Organisation internationale de la francophonie. Cette francophonie-là, elle est représentative de la diversité du monde, en fait. C'est-à-dire que Montréal ou Kinshasa, de toute façon, on appartient à la francophonie parce qu'on partage une langue commune, qui est le français, et surtout, je peux dire, des valeurs, peut-être un idéal, humaniste commun, et qui a été en quelque sorte insufflé dès les premiers moments de l'histoire de la francophonie politique.
Mais ça, c'est la
fondateur.
Ça, c'est la considération institutionnelle. Quant au ressenti, l'idée que la francophonie c'est la France, ça, c'est très un ressenti africain. À Montréal, on pense que la francophonie, elle est d'abord québécoise et on défend cette langue. On la met pas en procès.
Non, c'est vrai que chaque peuple francophone s'identifie en quelque sorte à la langue française à sa façon. Et tout ça, c'est lié à son histoire, une histoire individuelle et l'histoire liée aussi à ses contacts avec la France ou avec la Belgique, en quelque sorte. Je comprends votre idée. Effectivement, en Afrique, qui est jugée maintenant comme l'avenir de la francophonie, hein, c'est lié au nombre de locuteurs. L'Afrique, c'est vrai que la plupart des pays africains de la francophonie institutionnelle actuelle sont issus de l'empire colonial. Vous voyez, et au moment de la décolonisation, beaucoup de pays africains ont adopté le français comme langue d'enseignement et langue officielle. Alors, Québec, le Québec, c'est tout à fait différent. Mais le Québec, en quelque sorte, est aussi lié à la France. Et il ne faut pas oublier que la France a colonisé aussi le Canada. Jacques Cartier est arrivé à Montréal, au fleuve Saint-Laurent, en 1534. C'était la première colonisation française.
En tout cas, l'idée que la francophonie est un outil politique pour la France et pour la politique étrangère est partagée par plusieurs intellectuels africains et parfois par les populations hein, qui vivent dans les capitales ou dans les campagnes africaines. Écoutez ce que disait Alain Mabankou. Il a un avis très tranché sur cette question.
Malgré tout ce qui s'est passé avec les interventions des Bourguiba, des Senghor, des pères de la francophonie, on a toujours senti que dans l'esprit de tout le monde, la francophonie demeurait la continuation de la politique étrangère de la France par une voie détournée. Lorsque l'Organisation internationale de la francophonie vote son secrétaire ou sa secrétaire, c'est toujours les États qui décide, alors que moi j'ai toujours appelé à la décision populaire sur la francophonie. La langue française n'appartient plus à la France, et d'ailleurs elle n'a jamais appartenu à la France. C'est une langue qui se modifie, elle est aussi variable chez Amadou Kourouma, que chez Sonny Laboutansi ou chez Michel Houellebecq.
Shan Fine-Labbey, que pensez-vous de cette position de Mabankou, qui suppose finalement de distinguer la francophonie institutionnelle et l'usage de la langue?
Alors, je suis à la fois pour Et contre, c'est pas contre, mais je partage pas tout à fait ces façons de en quelque sorte de lier la francophonie politique internationale, intergouvernementale actuelle à l'outil, je veux dire à l'outil de politique étrangère de la France. Après, moi, bon. Je pense que sur la table de la francophonie, chaque pays est souverain et chaque pays est libre. Hein. Adhérer à la francophonie, c'est tout d'abord un acte de volontariat. Voilà. Et bien.
Mais vous-même, vous avez quand même été la première à signer une tribune dans Le Monde, enfin la première peut-être pas, mais de celle qui a signé une tribune dans Le Monde pour dire qu'il y a une trop grande centralité de la France au sein de la francophonie.
Oui, alors... Bon, la francophonie est perfectible. Je suis d'accord avec beaucoup d'idées pour dire que peut-être il faut maintenant qu'on pense à un nouveau souffle, une nouvelle stratégie de coopération multilatérale francophone. C'est comme, comment vous dire, le multilatéralisme, les relations internationales actuelles, en quelque sorte, il est aussi en crise. La francophonie, ici, je parle peut-être du sommet des chefs d'État et de gouvernement et de l'Organisation internationale de la francophonie, qui sont aussi au croisement des chemins. Et en quelque sorte, ils promeuvent la langue française, mais pas tout seul. C'est pas la langue française, mais il y a à côté, je pense que le plus important, c'est les coopérations pour le développement et pour la paix. Et après, la langue française s'inscrit dans la diversité culturelle. Et ce qui est fondamental pour le projet francophone, c'est l'idée qu'on est là parce que tout seul, on peut pas affronter les défis du monde, en fait, tout seul. Et je pense que maintenant, la francophonie a beaucoup évolué. La francophonie Senghor s'est terminée, en quelque sorte, au seuil du 21e siècle.
Shan Fei Labeye, désolé de devoir vous interrompre, mais cette émission va prendre fin pour annoncer ou confirmer plutôt la libération d'Olivier Dubois, notre confrère retenu au Mali depuis presque 2 ans. Donc merci beaucoup à vous. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Raphaël Pluxva, Tiffany Manta à la réalisation. Et j'en profite pour remercier France Bleu Isère de nous avoir permis de réaliser ce duplex. Et je rajoute une petite info de notre côté RFI. Nous profitons de cette date du 20 mars pour lancer l'appel à écriture pour le prix RFI Théâtre, dont c'est la 10e édition. À toutes celles et tous ceux qui écrivent du théâtre, une seule adresse, prix.théâtre@rfi.fr.